Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat au Sénégal. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier des résolutions renvoyant 5 anciens ministres du président Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Ils sont soupçonnés de malversation, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de lutte contre le Covid-19. Ces personnalités doivent être entendues par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice qui décidera de leur envoi ou non en procès devant cette juridiction. Sans appel ni recours. Qu'en pensez-vous ? Que vous inspire la décision des parlementaires sénégalais ? Comment recevez-vous les critiques de l'opposition qui dénonce une chasse aux sorcières ? Vos réactions nous intéressent. On vous attend au standard. 33 9 693 693 70. Je lirai également les nombreuses réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions. Bonjour Messi, vous nous appelez de Lubumbashi dans le sud de la RDC.
Bonjour Namoury Dosso.
Alors vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la situation d'un ancien pirate somalien menacé d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'agit de Mahmoud Abdi Mohamed, un des 5 pirates somaliens impliqués dans la prise d'otage du voilier français le Tanit en 2009 dans le golfe d'Aden. Il avait été arrêté par l'armée française à l'issue d'un assaut. Il a purgé sa peine de prison en Bretagne, dans l'ouest de la France, puis s'est réinséré dans la société. Pour vous répondre, Messi, nous sommes en ligne avec Amélie Beaucourt, journaliste au service France de RFI. Bonjour Amélie.
Bonjour Namoury, bonjour Messi.
Alors Messi, on écoute votre première question.
Exactement. J'aimerais savoir, cet ex-prisonnier Abdi, comment expliquer sa situation alors qu'il semblait insérer et exercer déjà une activité professionnelle ?
Amélie Beaucourt vous répond, Abdi.
Eh bien, parce qu'après 15 ans passés en France, Abdi n'a jamais réussi à faire régulariser sa situation. Il faut le rappeler, lorsqu'il arrive en France en 2009, c'est avec les menottes au poignet, puisqu'il est arrêté par les militaires français au moment de la libération des otages du Tanit. Lui, c'est un jeune homme somalien tombé entre les griffes d'une mafia locale. Il n'a pas de papier. En prison en France, il fera une première demande d'asile, mais elle sera rejetée. Lorsqu'il sort, il demande l'asile une deuxième fois, mais même résultat, chaque fois avec de longs délais entre la demande et la réponse. Il finit par entamer une demande de titre de séjour en 2017, qui restera sans réponse jusqu'en 2024. La préfecture lui envoie en février un récépissé, donc un document qui atteste qu'elle est en train d'étudier sa demande, qu'il a le droit de rester en France pendant ce temps. Et 5 mois plus tard, elle donne sa réponse. Un refus de titre, plus une obligation de quitter le territoire, plus une interdiction de revenir en France avant 5 ans, au motif qu'il serait une menace à l'ordre public.
Pourtant, Amélie, Abdi a un parcours d'insertion exemplaire. Sur quoi se fonde ce motif de menace à l'ordre public ?
Oui, vous avez raison de le souligner, il a toujours voulu montrer patte blanche. Abdi, déjà, il n'a pas fait appel de sa condamnation à 9 ans de prison. Il sort d'ailleurs au bout de 6 ans et demi pour bonne conduite. Il y apprend le français, le métier de cuisinier, ce qui lui permet une fois dehors de trouver un contrat à durée indéterminée dans la restauration. Dans le village où il réside en Bretagne, il est décrit comme quelqu'un de très amical, toujours prêt à rendre service, donc pas franchement une menace à l'ordre public. Mais ce motif-là, il est de plus en plus récurrent depuis le durcissement de la loi immigration. En fait, c'est une catégorie un peu fourre-tout et qui peut être utilisé sans aucune justification. C'est la décision de la préfecture, c'est à l'appréciation du préfet et tout ce qu'Abdi peut faire, c'est la contester en justice.
Mais si vous aviez une deuxième question.
Exactement, j'aimerais savoir, Madame Beaucourt, une saisie du tribunal administratif a été engagée. Alors, est-ce que Abdi a des chances d'obtenir gain de cause devant la justice ?
Amélie Beaucourt.
Oui, Abdi effectivement a déposé un recours contre tout ce que lui avait imposé la préfecture. Le tribunal administratif de Rennes a considéré que effectivement Abdi ne représentait pas une menace à l'ordre public et puis qu'une interdiction de revenir en France ne se justifiait pas. En revanche, elle a coupé la poire en deux et elle a décidé de ne pas faire annuler le refus de titre de séjour et l'OQTF. Mais Abdi veut faire annuler tout ce que la préfecture lui a imposé, donc il a fait appel de cette décision. Et je vous parlais tout à l'heure des délais. Il n'a pas encore de date pour ce nouveau procès, mais oui, il a des chances d'obtenir gain de cause. Surtout qu'il peut compter sur un comité de soutien très important et qu'il est appuyé notamment par une ancienne otage du Tanit, la femme du skipper qui a été tuée pendant l'assaut. Elle s'est liée d'amitié avec lui, elle le soutient et les témoignages qui prouvent son insertion et ses liens avec la France sont nombreux dans son dossier. Et puis, dernière option, si jamais ça ne fonctionne pas en cour d'appel, il aura toujours possibilité d'aller porter l'affaire devant le Conseil d'État qui peut redemander un nouveau procès.
Messi à Lubumbashi, avez-vous les réponses à vos questions ?
Oui, merci beaucoup à vous, Monsieur Dossoin, ainsi qu'à Madame Bocou.
Belle journée à vous, Messi à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. Merci également à Amélie Beaucourt, journaliste au service France de RFI. Nous accueillons désormais Abba, qui nous appelle de Berthois, dans l'est du Cameroun. Bienvenue, Abba.
Merci, bonjour, Monsieur Namori Dosso, et bon début de la semaine.
Alors, la présence de criquets pèlerins dans la partie septentrionale du continent suscite votre intérêt. On écoute votre première question, Abba.
Effectivement, à ce sujet, Monsieur Namori, quelles d'autres régions qui sont également menacées ? Et quels sont les risques dans le continent ?
Alors Abba, pour vous répondre, nous sommes en studio avec Jeanne Richard, journaliste au service environnement et climat de RFI. Bonjour Jeanne.
Bonjour Abba.
Alors Jeanne, les criquets pèlerins représentent-ils un risque pour le continent ?
Alors en fait, pour bien comprendre les zones où se développent en ce moment les criquets pèlerins, il faut remonter à août et septembre dernier. Il y a eu de très bonnes pluies dans le nord du Sahel. Résultat, beaucoup de végétation, plus au nord par rapport à d'habitude, et une végétation qui a perduré et qui a permis aux criquets de bien manger et donc de pondre en quantité. On se retrouve du coup avec de grandes populations de criquets dès le mois de décembre dans le nord du Tchad et du Niger. Il en reste d'ailleurs encore un peu dans ces zones. Et les criquets se déplacent en suivant le vent, avec le vent du désert, la plupart sont remontés plus au nord et ils sont arrivés dans les pays du Maghreb courant février et mars. Et à ce moment-là, il y a eu à nouveau de bonnes pluies dans ces régions et donc ces criquets arrivés du Sahel se sont à nouveau reproduits. Ils forment en ce moment de petits essaims et on observe toujours des bandes de larves, hein, ce qui laisse présager que ce développement continue.
Alors Abba, on écoute votre seconde interrogation.
Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour éviter l'expansion de ces criquets pèlerins ?
Alors, pour éviter qu'il y en ait plus qui se développent, il faut que des équipes aillent sur le terrain pour savoir où il y en a et combien. Et là, à cause des problèmes d'insécurité, eh bien, ça complique leur tâche. Il faut ensuite traiter par avion. Il y a des épandages de pesticides pour tuer les criquets. Ce sont des pesticides chimiques qui polluent et qui ont un impact sur l'environnement. Les États tentent donc aussi d'utiliser de plus en plus de biopesticides. C'est un champignon qui attaque spécifiquement les criquets, mais qui met quelques jours à se développer et donc à les tuer. Dans le Maghreb, des milliers d'hectares ont déjà été traités ces dernières semaines et cela continue. Et il faudra aussi certainement encore faire des traitements au Sahel cet été parce que, pour répondre aussi à votre question, les spécialistes de la FAO prévoient à nouveau de bonnes pluies, une bonne saison des pluies au Sahel. Et donc, ces criquets qui sont actuellement dans le sud du Maghreb, sud libyen, tunisien, algérien et même jusqu'au Maroc, ils risquent de redescendre au Sahel. Et donc, on les trouvera sans doute au Tchad, au Niger, peut-être aussi au Mali. Et c'est vrai que la FAO prévoit qu'il faudra à nouveau traiter ces zones-là cet été.
Ah bah, savez-vous, avons-nous répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, M. Dosso, merci.
Alors merci, belle journée à vous à Berthois dans l'est du Cameroun. On salue également tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Yaoundé ou encore Douala. Merci également à Jeanne Richard, journaliste au service environnement et climat de RFI pour cet éclairage. Merci Jeanne. Alex est en ligne avec nous. Bonjour Alex.
Oui, monsieur Dosso, bonjour.
Alors Alex, vous nous appelez de Bangui, la capitale de République centrafricaine. Vous avez des interrogations au sujet des violences dans l'est de votre pays. Et pour vous répondre, François Mazé, journaliste au service Afrique de RFI, est avec nous en studio. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Alors Alex, on écoute votre première question.
Ok. Le sud de la Centrafrique est éprouvé par de nouvelles violences entre les combattants de la communauté Zandé et les mercenaires russes déployés dans la région. J'aimerais savoir pourquoi l'accord d'intégration des miliciens de la communauté zandé dans l'armée a-t-il échoué ?
François Mazet vous répond.
Alors c'est un ensemble d'éléments, Alex. C'est vrai qu'on se rappelle qu'il y a un an, ces miliciens zandais prenaient l'uniforme FACA pour être formés par les Russes et devenir le groupe qu'on a appelé Wagner Tia Zandais. À l'époque, la société civile locale craignait surtout qu'ils reproduisent les méthodes employées par leurs formateurs contre les populations. Finalement, il semblerait qu'il y ait eu une frustration qui se soit établie au fil des mois, une forme d'oisiveté, des promesses non tenues, et puis surtout les causes de la formation de leur milice d'autodéfense communautaire en 2020. Eh bien, ces causes n'ont pas évolué. Les Zandais accusent les Russes, les FACA et même les casques bleus de l'ONU de collusion avec leurs ennemis, la rébellion UPC, à laquelle ils associent en général les Peuls et les populations musulmanes de la région. Des accusations sans fondement, parfois, notamment pour ce qui concerne la MINUSCA, qui a pour tâche de défendre notamment les musulmans contre les attaques de ces miliciens zandais. Je rappelle que le leader de l'UPC, Ali Daras, a signé en avril un accord avec le gouvernement pour revenir dans le processus de paix. Je rappelle que son ex-bras droit, Hassan Bouba, est déjà ministre du gouvernement centrafricain et que même si ces deux-là sont fâchés, ils se disputent l'influence au sein de la communauté Peul. Hassan Bouba, qui est un des relais des Russes auprès des Peuls et du secteur de l'élevage. Donc les causes du conflit intercommunautaire demeurent jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, dans un communiqué en fin de semaine dernière, l'opposition politique, le BRDC, n'a pas hésité à dénoncer l'UPC comme étant responsable de la situation dans cette région, de cette nouvelle flambée de violence, même si en réalité c'est quand même beaucoup plus complexe.
Alors Alex, vous avez une deuxième question à ce sujet.
Oui, en fait, Monsieur Dosso, j'aimerais savoir comment s'explique ce retournement de situation.
Alors il y a cette frustration qui est remontée depuis le début de l'année. Dans une lettre publiée vendredi, un responsable communautaire de Zemio dénonce des arrestations et des mauvais traitements de chefs de village, de quartier, au fil des semaines. Deux d'entre eux d'ailleurs seraient toujours disparus. Et puis ils accusent les Russes d'avoir tenté le 30 avril de désarmer des miliciens zandais qui avaient été intégrés au FACA. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, semble-t-il, et conduit donc à l'attaque de position des autorités à Zemio, puis à Mboki la semaine dernière. Le bilan que l'on a, c'est 3 civils tués, 5 corps habillés centrafricains, militaires, policiers, gendarmes à Zemio. Il y a aussi les déplacés. Selon la MINUSCA, quelques 10 000 personnes avaient fui la semaine dernière à Zemio, la moitié vers des sites publics en ville comme l'église et l'hôpital, l'autre moitié de l'autre côté de la rivière Mbomou en RDC. Et donc, depuis le milieu de la semaine dernière, c'est un calme précaire qui est revenu dans cette région.
Alex, les réponses de François Mazet vous permettent-elles d'y voir plus clair?
Oui, monsieur, de ce moment, ça n'est pas vraiment percutant et convaincant. Là, je comprends plus que la surface là-bas, vers le nord.
Alors, Alex, on n'a pas tout à fait compris ce que vous nous avez dit à la fin, parce que la ligne se dégrade malheureusement. Néanmoins, on vous remercie et on vous souhaite une excellente journée à Bangui, la capitale centrafricaine. Également à tous les Banguissois qui nous écoutent sur le 99.8 FM. Merci également à François Mazet, journaliste au service Afrique de RFI. Avant de prendre le dernier auditeur en ligne pour répondre à ses questions, je vous rappelle le thème du débat d'appel sur l'actualité consacré au Sénégal. 5 anciens ministres de Macky Sall soupçonnés de malversation seront bientôt jugé par la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale a voté les projets de mise en accusation jeudi dernier. 4 d'entre eux sont mis en cause dans un rapport de la Cour des comptes daté de 2022 sur la gestion des fonds anti-Covid. L'APR, le parti de l'ancien président, dénonce une opération de dénigrement politique orchestrée par le pouvoir actuel. Que vous inspire la décision des parlementaires sénégalais? Que vous inspire ces renvois devant la Haute Cour de justice? On attend vos réactions au standard. Il est ouvert 33 9 693 693 70. Dernière question d'auditeur. Ce lundi matin, nous sommes de retour à Lubumbashi, dans le sud de la RDC, où l'on retrouve Achille. Bonjour Achille.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Alors Donald Trump s'est dit favorable à la réintégration de la Russie aux compétitions internationales et cela a suscité des questions chez vous. Pour tenter d'y répondre de la meilleure des façons, nous sommes en ligne avec Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, également auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Lucas Aubin, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors je vous présente Achille, auditeur de RFI à Lubumbashi en RDC, et il a une première question à vous poser.
Oui, selon Donald Trump, réintégrer la Russie aux compétitions internationales sportives pourrait inciter le Kremlin à arrêter la guerre. Le président américain a-t-il raison en faisant de telles déclarations?
Réponse
de l'absence de la Russie.
Réponse de Lucas Aubin, Achille.
Alors, merci beaucoup pour votre question, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que le sport n'a pas tous les pouvoirs, mais pour Vladimir Poutine, évidemment, c'est un instrument politique de premier plan, hein, on le sait. Vladimir Poutine, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, il utilise le sport à la fois pour son pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'il se met en scène en faisant du judo, du hockey, etc., mais il essaie de faire en sorte que la Russie participe aux plus grandes compétitions sportives de la planète et qu'elle les remporte. Alors, évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce plan ne fonctionne plus puisqu'il est exclu. Et donc, lui, son objectif à Donald Trump, c'est d'essayer justement d'exclure, de réintégrer pardon, la Russie pour donner finalement une sorte de gage à Vladimir Poutine en lui disant « Tu vois, je te tends la main, on a de grands événements sportifs qui vont se dérouler aux États-Unis dans les prochaines années, et finalement, c'est une manière de prouver sa bonne foi. » Alors, est-ce que ça va fonctionner? Évidemment, le sport, c'est d'abord un symbole, hein, bien sûr, mais il est possible que Vladimir Poutine entende ce langage.
Alors, Achille, à Lubumbashi en RDC, vous aviez une deuxième question pour notre invité.
Oui, la seconde question, elle est de savoir aujourd'hui comment se positionne la FIFA concernant un potentiel retour des équipes russes sur la scène sportive.
Lucas Aubin.
Alors, la position est très claire. La FIFA a annoncé, tout comme l'UEFA d'ailleurs, a annoncé que la Russie réintégrerait le football mondial uniquement si la guerre s'arrêtait. Alors, la guerre, elle a plusieurs façons de pouvoir s'arrêter. Hein. Ça peut être justement un cessez-le-feu, ça peut être un accord de paix. Là, par exemple, on serait probablement, potentiellement plutôt, à la veille d'un cessez-le-feu. Peut-être que si celui-ci était respecté, alors la FIFA pourrait changer d'avis. Mais il est évidemment bien trop tôt pour le dire à ce stade. Mais pour vous répondre très clairement, la FIFA l'a dit. La Russie sera réintégrée dans le football mondial quand la guerre s'arrêtera.
Alors, Lucas Aubin, est-ce que l'absence de la Russie des compétitions internationales a de réelles conséquences sur le pays ?
Oui, tout à fait. Elle a de réelles conséquences, notamment pour toute une génération d'athlètes russes qui ne peut pas participer aux grandes compétitions internationales. Ces athlètes, évidemment, pour une partie, se plaignent auprès de Vladimir Poutine et du régime russe et cherchent finalement à réintégrer les grandes compétitions sportives. On a vu, on le sait, plus de 200 athlètes russes ont changé de nationalité ces deux, trois dernières années pour justement pouvoir participer aux grandes compétitions internationales. Donc les conséquences sont réelles et il faut bien se souvenir que Vladimir Poutine est un enfant de l'URSS, de la guerre froide, et notamment de la guerre froide du sport. Et donc pour lui, le fait que la Russie ne puisse plus participer à ces compétitions, c'est évidemment une grosse épine dans son pied. Et donc, il y a fort à parier pour qu'il cherche actuellement une porte de sortie pour justement réintégrer les grandes compétitions sportives. Et je pense notamment à l'élection de Kirsty Coventry, hein, la nouvelle présidente du CIO, qui pourrait se montrer favorable également à une réintégration de la Russie dans les grandes compétitions sportives et notamment aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Enfin, très concrètement, Lucas Aubin, est-ce que la volonté du président américain en ce qui concerne ce sujet peut réellement faire bouger les choses tant que les autres pays qui ont sanctionné la Russie ne décident pas de l'inverse ?
Non, très concrètement, le sport n'a pas ce pouvoir-là. Il fait partie, disons, d'un paquet de sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Lever cette sanction, ce serait un premier pas, mais un tout petit pas. Les réelles sanctions importantes pour Vladimir Poutine concernent davantage celles qui touchent l'économie russe. Et c'est celle-ci, je crois, qu'il cherche à lever aujourd'hui.
Achille, avez-vous obtenu les réponses que vous attendiez ?
Oui, merci beaucoup à ces grands du sujet.
Alors Achille, on vous souhaite également une excellente journée à Lubumbashi, hein, dans le sud de la RDC. Un grand merci également à Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, également auteur de l'ouvrage Géopolitique de la Russie à retrouver aux éditions La Découverte. Merci à vous. Restez à l'écoute, juste après le journal, dans une trentaine de secondes, hein, nous ouvrirons le débat d'appel sur l'actualité. Hein, je vous le disais tout à l'heure, nous irons au Sénégal, où 5 anciens ministres de Macky Sall, soupçonnés de malversation, seront bientôt jugé par la Haute Cour de justice. C'est un fait assez rare dans l'histoire politique et même judiciaire du pays. L'Assemblée nationale a voté la mise en accusation, c'était jeudi dernier. L'APR, le parti de l'ancien président, dénonce une opération de dénigrement politique orchestrée par le pouvoir actuel. Qu'en pensez-vous ? Rendez-vous au standard 33 9 693 693 70.